100% raisin, des mots en bouteille. Épisode 11, mécanique des fluides. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au vin, j'étais persuadée d'une chose. La région que je comprendrais le mieux et le plus rapidement, ce serait la Champagne. Je m'étais dit, c'est simple, c'est trois cépages, des bulles, et puis basta. Grossière erreur. Je me suis donc intéressée à cette appellation comme aux autres régions, mais sa découverte fut un choc. Comme un origami dont on déplie les feuilles et dont chaque rebord ouvre une fenêtre sur un nouveau monde, mes visites en Champagne me montraient chaque fois une voie nouvelle, une subtilité insoupçonnée. Bien au-delà de ces cépages, cette terre ingrate me dévoilait son étonnante complexité, un univers polychrome qu'il fallait conquérir. Et en 15 ans de dégustation, je pense en avoir davantage appris sur la Champagne que sur tout le reste du vignoble. Car cette appellation multiple cache une infinité de nuances d'expression et d'élaboration qui la rend insaisissable au premier abord, mais intensément passionnante. Jusqu'à ces bulles, dont on s'efforce de percer le secret depuis plus de 4 siècles. J'avais, pour le besoin d'un article, interviewé à ce propos Gérard Ligé-Belair, professeur de physique à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Ce scientifique a fondé en 2012 le premier laboratoire au monde et le seul à ce jour, consacré exclusivement aux liquides effervescents alimentaires et sobrement baptisé « Effervescence, champagne et applications ». Gérard Ligé-Belair ne s'intéresse pas seulement aux bulles de champagne, mais à toutes les bulles alimentaires, issues de produits alcoolisés ou non, que ce soit des vins mousseux, des bières, des sodas ou encore des eaux gazeuses. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, le sujet était jusque-là resté étrangement vierge. Ainsi donc, il m'avait expliqué cette intrigante mécanique des fluides et m'avait ouvert toute grande les portes de ce monde parallèle. La première chose qu'il m'avait rapportée était que l'effervescence s'étudie comme certains phénomènes atmosphériques ou océanographiques. De là tombèrent tous mes a priori sur le sujet. Si vous aussi pensez que la bulle détermine la qualité du breuvage, écoutez plutôt ce qui suit et plongez avec moi dans cet univers fascinant. Gérard Ligé-Belair a décortiqué le phénomène sous toutes ses facettes, avec des moyens dignes de la NASA. Ses études sont sérieusement documentées et rendent compte du phénomène par des images somptueuses recueillies par tomographie laser. Scrutées au plus profond de leurs entrailles, les bulles se livrent alors sous un jour nouveau, formant des tourbillons comme dans les océans ou des amas de condensation, un phénomène également comparable à la formation des nuages. Cette intimité se dévoile de façon inattendue, puisque jusqu'ici, pas un amateur de champagne ou un œnologue n'avait investi le sujet aussi profondément, et les processus liés à la formation des bulles étaient restés totalement inexplorés. Vous pensez que les bulles des créments sont plus grosses que celles du champagne ? Faux. Que celles de la bière sont plus grossières également ? Encore faux. Vous croyez que plus la bulle est fine, meilleur est le champagne ? Toujours faux. En réalité, il existe un biais psychologique car c'est exactement l'inverse. Les bulles de la bière sont 2 fois plus fines que celles du champagne. Ce sont là des idées préconçues, surtout liées au prestige et au prix. Du débouchage au service, le champagne apparaît donc sur ses clichés sous des formes inattendues et balaye des a priori trop longtemps véhiculés, comme celui justement de la taille des bulles. La bulle sera d'autant plus fine qu'il y a peu de dioxyde de carbone dissous. En effet, à l'issue de la seconde fermentation en bouteille, que l'on appelle la prise de mousse, le dioxyde de carbone reste emprisonné. En réalité, il s'échappe petit à petit par le bouchon, qui lui n'est pas totalement hermétique. Et plus le champagne vieillit, plus le dioxyde s'amenuise dans la bouteille et plus la bulle s'affine. D'autres photos spectaculaires montrent les mouvements tourbillonnaires du champagne, c'est-à-dire l'effervescence, dans un verre au repos. Ces mouvements tourbillonnaires ont une incidence considérable, car ils renouvellent en permanence la surface du liquide en composés volatiles odoriférants, accélérant ainsi les arômes du vin. Cette effervescence libérant spontanément les arômes, il est donc inutile d'agiter son verre pour mieux les sentir. Par analyse, les chercheurs ont montré que le brouillard de gouttelettes, engendré par l'éclatement des bulles au-dessus d'un verre de champagne, est beaucoup plus concentré en molécules organoleptiques, jusqu'à plus de 30 fois pour certaines molécules, que le cœur de la flûte. Ces mêmes effets de tourbillon se retrouvent à l'œuvre à l'échelle des océans, les bulles éclatent à la surface de l'eau et libèrent l'iode. Les équipes de Gérard Ligier-Belair ont ainsi établi un beau parallèle entre le pétillement de l'océan et celui du champagne dans un verre. Ils expliquent. La source majeure du bouillonnement à la surface de l'océan est le résultat de l'action des vagues combinée à celle de la pluie, les deux phénomènes piégeant l'air dans l'eau de mer sous forme de bulles. Lorsque les bulles éclatent à la surface de la mer, elles diffusent un brouillard de gouttelettes, exactement comme le font les bulles de champagne. Dès le début des années 70, des océanographes ont établi que ces gouttelettes constituaient un concentrat des particules présentes dans l'eau de mer dont elles étaient issues. Plus récemment, lors d'une campagne dans les océans Atlantique et Antarctique menée par le brise-glace allemand Paula Stern, le transport vers l'atmosphère sous forme d'embrun de centaines de composés organiques dissous dans l'océan a pu être décrit. Les bulles qui éclatent écrèment en quelque sorte la surface de l'océan, tout comme les bulles de champagne écrèment les molécules tensioactives et aromatiques de la surface du vin. Si les bulles de champagne ont pour effet de décupler notre plaisir en projetant au-dessus du verre un brouillard de gouttelettes chargées d'arômes, les gouttelettes produites par le pétillement des océans constituent la plus grande source d'embrun et de composés organiques dissous impliqués dans la chimie complexe de l'atmosphère et donc dans l'équilibre climatique global. Autre analogie, avec les nuages cette fois au moment du débouchage de la bouteille. Que se passe-t-il exactement ? Le gaz carbonique enfermé dans la bouteille est sous pression. Or, la pression augmente avec la température, car plus le vin est froid, plus le CO2 y est soluble. Ainsi, dans une bouteille de champagne, une pression de 5 bars à 6 degrés atteint 8 bars à 20 degrés, tandis que la concentration en CO2 du vin diminue. La force exercée par le gaz carbonique sous pression dans le col de la bouteille étant à l'origine de l'éjection du bouchon, la température joue de toute évidence un rôle fondamental. En somme, plus la bouteille est fraîche, plus le CO2 est dissous, et moins forte est la pression au débouchage. A contrario, à température ambiante, la pression est plus importante. En résumé, la température de service est un point crucial, car plus la bouteille est fraîche et plus la pression dans le col de la bouteille reste contenue. En somme, vous risquez moins de voir votre vin déborder le long de la bouteille. Cette phase du débouchage a été décortiquée par l'imagerie scientifique grâce à des caméras ultra rapides. Le nuage de condensation qui se forme au-dessus du goulot apparaît, dû à la décompression brutale du volume de gaz qui jaillit et à une chute soudaine de la température du col de la bouteille. Ce nuage est bleuté, car la taille des gouttelettes de condensation est inférieure aux longueurs d'onde du spectre de la lumière visible, de 0,4 micromètre pour le bleu à 0,8 micromètre pour le rouge. Un phénomène analogue à celui qui nous fait voir le ciel bleu, les molécules de l'atmosphère terrestre étant plus petites que les longueurs d'onde de la lumière solaire. Passons maintenant au service. Une fois que vous avez proprement ouvert la bouteille, c'est-à-dire en tenant fermement le bouchon d'une main et en tournant le fond de la bouteille de l'autre pour éviter de composer le 15, il vous faut verser correctement le champagne. Comment faire ? On a comparé deux types de service. En inclinant le verre, comme pour une bière, ou en le laissant à la verticale. Après étude, il a été prouvé qu'incliner le verre permettait de préserver une plus grande quantité de CO2 dissous et donc plus de bulles. En effet, pendant les 10 secondes de service, on perd un tiers du CO2 dissous. C'est d'autant plus important pour les vieux champagnes qui en ont déjà perdu. Enfin, en ce qui concerne le choix des verres, je vous en avais déjà parlé, j'espère que vous prenez des notes. Donc, ni coupe ni flûte, mais un beau verre à vin aux parois fines, ni trop large, ni trop étroit, pour ne pas perdre de bulles au passage. Sachez que d'un million de bulles présentes dans un verre, on tombe à 300 000 environ avec une coupe évasée. Quant à la propreté, il faut en user avec modération. Inutile en effet de laver ses verres en parfaite ménagère, car avec un verre trop propre, on obtient peu de bulles. Pour qu'il y ait des bulles dans le verre, il ne faut pas que sa paroi soit parfaitement lisse. Ce sont les imperfections, les petites poussières qui peuvent se glisser dans le verre, qui permettent à la bulle de se former. De petites anomalies qui créent la magie. Évitez donc de ranger vos verres retournés dans un placard. Dans les profondeurs de la bulle se cache ainsi un monde insoupçonné, à la mesure des océans dont on ne perçoit qu'une infime portion. Un monde de silence, anonyme, ignoré. Pourtant plus vaste et plus énigmatique que tout ce que nous connaissons. Et dans un verre de champagne se presse ainsi la part silencieuse du monde. L'invisible condensé en des millions de bulles d'air, de petites molécules qui flottent et que nous capturons, ingérons et faisons nôtre. Le processus de création, le principe même de vie est à l'œuvre dans chaque gorgée, et c'est à cet écho invisible que je pense lorsque, dans le calme de la nuit, le temps qui s'étire et accumule les jours à sa suite, forme lui aussi un condensé de matière bleue, un halo dont on ne perçoit pas d'abord toute l'étendue. Et c'est dans l'absence et le silence que résonnent, plus forts encore, l'espace et la matière qui composent le socle de ma mémoire.